Hervé, bonjour.
Bonjour.
Un vent glacial souffle sur la presse ce matin.
Bourrasque sibérienne après la mort d'Alexei Navalny en Russie et une bise réfrigérante sur l'économie française dont Bruno Le Maire a annoncé froidement les effets hier soir à la télévision. Croissance, dette, la France en risque, résume en une les Échos. Le ralentissement de l'activité oblige le ministre de l'économie à mettre l'État à la diète, dit le journal. Bercy tablait sur 1,4% de croissance, ce sera 1%, ce qui fait écrire au Figaro que le budget 2024 est déjà obsolète et doit être raboté en urgence de 10 milliards d'euros. Au passage, le journal se demande si la posture de père la rigueur choisie par Bruno Le Maire n'est pas aussi un moyen de se démarquer politiquement d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. Le quotidien L'Opinion parle, lui, d'un tour de vis budgétaire et assure que tous les ministères seront touchés, on jurerait avoir déjà entendu cela.
Ah oui, tous les ans, tous les 10 ans, tous les 5 ans. Le problème, c'est que chaque fois qu'un gouvernement veut, par exemple, diminuer le nombre de fonctionnaires, il soulève un tollé.
Illustration avec la crise en cours à Météo France, et là encore, il va être question de grand froid. Ouest France y consacre sa une, et Le Parisien un long article, parce que les syndicats de l'établissement public ont déposé un préavis de grève. Ce qui est en cause, le projet 3P, programme, prévision, production, système d'automatisation des prévisions météo conjuguées avec la baisse des effectifs. En 15 ans, 1200 postes ont été supprimés à Météo France, ce qui fait à peu près un tiers du personnel. Les syndicats y voient l'explication de la dégradation des prévisions qui serait devenue à peine plus précise que les prévisions de croissance de Bercy. Exemple donné par Ouest France, le 6 décembre dernier, Météo France annonçait des chutes de neige avec une température de 9 degrés. Un non-sens météorologique, dit le journal.
Ça veut dire que l'ordinateur est moins bon que l'homme pour lire les images des satellites et en déduire le temps qu'il fera.
Eh bien, si on comprend bien, c'est plutôt le défaut de vérification et de correction qui permet les défaillances. Les prévisions sont tirées d'un outil nommé Alpha, dont les résultats étaient affinés au niveau régional. Avec le programme 3P, c'est maintenant un seul agent basé à Toulouse qui est censé tout vérifier et corriger si besoin. Le résultat, en décembre, les chutes de neige à Paris et dans le Nord n'ont pas été anticipées, ce qui a provoqué la panique routière que l'on sait. La neige n'était même pas annoncée alors qu'elle était déjà en train de tomber. Il aurait suffi d'ouvrir la fenêtre. Dans Le Parisien, la direction de Météo France affirme pourtant que le taux de réussite à 3 jours des prévisions reste malgré tout proche de 80%, ce qui n'est quand même pas fantastique. Si on y réfléchit bien, le taux de grévistes, lui, à Météo France, n'est que de 0,3%. Les syndicats n'avaient peut-être pas prévu cela non plus.
Je ne sais pas si on prévoit mieux les grèves que la météo en France. Ce qui était très prévisible, en revanche, c'était la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. La presse revient largement ce matin sur les conséquences de sa disparition.
Il faut dire que les causes, elles, restent encore mystérieuses et que le Kremlin fait peu d'efforts de clarification. La Croix affiche en une un Poutine imperturbable, assuré de sa victoire à l'élection présidentielle du 17 mars et qui n'a pas pris la peine de réagir. L'un des biographes de Navalny explique dans le même journal, La Croix, que l'opposant emprisonné avait modernisé la contestation, qu'il lui avait donné un visage et qu'il avait politisé la jeunesse russe, mais que, hélas, son histoire s'achève sur un échec politique. En Russie, la répression franchit un deuil, titre Libération. L'hommage étouffé à Alexei Navalny complète Le Figaro, qui raconte que ses proches ne peuvent accéder à sa dépouille et que la surveillance du régime se renforce sur les autres opposants.
Courrier International publie sur son site la dernière lettre envoyée par Navalny à ses proches depuis sa prison de Sibérie.
La lettre date du 26 décembre et c'est le New York Times qui l'avait reproduite. Elle est donc traduite en français sur le site de Courrier International. Plein d'ironie, Navalny s'y décrit en nouveau Père Noël avec un manteau en peau de mouton au lieu du pardessus rouge et une toque en fourrure. Il n'y a pas de reine, mais d'énormes chiens de berger, écrit-il. Il raconte son transfert, 20 jours jusqu'au cercle polaire. Il décrit les gardes armée de fusils d'assaut. « Je ne peux pas vous raconter de belles histoires car je n'ai encore rien vu en dehors de ma cellule », regrette-t-il. Et il termine ainsi. Comme je suis le Père Noël, vous devez attendre avec impatience les cadeaux. Mais je suis un Père Noël en régime sévère, donc il n'y a de cadeaux que pour ceux qui ont été très méchants. On devine, à défaut de le savoir, quel cadeau Vladimir Poutine lui avait réservé.
Pour terminer avec un article du Monde, tout aussi réfrigérant, un reportage aux côtés des adeptes de l'immersion en eau glacée, ça donne des frissons.
Par un après-midi glacial de janvier à Paris, 2 degrés en dessous de zéro à l'extérieur, 4 femmes et 4 hommes encore emmitouflés dans leur doudoune se retrouvent dans un hôtel branché du 9e arrondissement, raconte Le Monde. Dans une chambre à l'étage, 40 kilos de glaçons les attendent dans un baquet où ils s'immergeront jusqu'au cou en maillot de bain sans combinaison. Température de l'eau entre 0 et 3 degrés, ce type d'expérience se multiplie, semble-t-il, popularisé par la méthode Wim Hof, du nom d'un Néerlandais connu pour ses records de plongée en eau glacée. 1600 instructeurs dans le monde sont formés à sa technique dite de l'ice therapy, censée vous revigorer le corps et l'esprit pour 90€ la séance, un prix assez raisonnable pour ne pas refroidir les candidats.
Est-ce que les bienfaits de cette immersion glaciale sont réels? J'aurais dû poser la question au professeur Alain Fischer, je me doute un peu de la réponse. Est-ce que c'est démontré scientifiquement?
À lire Le Monde, oui et non, donc pas vraiment. Le bien-être éprouvé au sortir de l'eau s'explique par la libération d'hormones psychostimulantes et euphorisantes en réaction au stress et à l'agression du froid. Il se dit aussi que chez les personnes habituées à nager en eau froide, on observerait une augmentation des globules blancs qui permettent de se défendre contre les infections. Mais il manque des études menées à grande échelle pour le vérifier, convient Le Monde. On sait en revanche que dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains voyaient dans les bains glacés une source de vitalité et qu'Hippocrate, père de la médecine, en 400 avant notre ère, invoquait déjà l'usage de la glace pour soigner les traumatismes. Mais à contrario, on croit savoir que si les Russes, sous leurs différents régimes, envoient les opposants en Sibérie, ça n'a jamais été pour leur bien.
Ouais, c'est un peu comme les coups de marteau sur la tête, ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc quand on quitte le bain d'eau glacée à 3 degrés, on se sent évidemment mieux, à moins d'être complètement maso. Hervé Gattegno, je vous dis à demain.
À demain.
Merci, tout de suite Luc Ferry, Esprit Libre.